Jeudi 2 février, Théo, un jeune homme noir de 22 ans, a fait l'objet d'un contrôle de police par 4 policiers dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il est violé, puis transporté au commissariat, puis à l'hôpital. Le 5 février, l'un des fonctionnaires est mis en examen pour viol, ses 3 collègues pour violence volontaire en réunion. Dans son rapport, l'inspection générale de la police nationale fait l'hypothèse d'un accident. Mardi 14 février, le parquet de Bobigny annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire après de nouvelles accusations de violence visant l'un des policiers mis en examen dans l'affaire Théo.
Toutes ces violences policières, c'est au quotidien qu'on les subit, c'est pas juste des affaires une fois tous les 10 ans, ensuite ça part en émeute, c'est vraiment au quotidien, les gifles, les palpations, tout ça, les matraques. On veut que ça change. Violence, depuis 30 ans, c'est eux qui la fabriquent dans nos quartiers. On a toujours été dans la lutte, on a toujours été dans la dignité.
Depuis l'agression, les manifestations se succèdent partout en France. Elles demandent justice, la fin de l'impunité de la police. Elles dénoncent les violences policières quotidiennes. Elles appellent à ne pas considérer cette nouvelle agression comme une bavure, une exception, mais une pratique liée à une politique. Avec le sociologue Éric Fassin, nous tenterons de comprendre comment et pourquoi les violences policières sous-tendent une politique qui les encourage. Comment et pourquoi elles contribuent à une politique de racialisation de la société. Et enfin, les enjeux que font peser sur les luttes contre les violences sexuelles, le procès à venir, et la qualification de viol par accident proposée par l'inspection générale de la police nationale. Bonjour Éric Fassin.
Bonjour.
Si je vous ai proposé qu'on se rencontre, c'est suite à une tribune qui a été publiée dans le journal Mediapart. Théo a bien été violé. Une tribune signée par une dizaine de chercheurs, dont vous. Théo, c'est un viol par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois lors d'un contrôle policier. Et au fond, moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne ensemble, c'est essayer de voir en quoi cette nouvelle affaire de violence policière n'est pas une bavure pour la pensée comme l'effet d'une politique. Et peut-être qu'on pourrait commencer par une question très simple. Qu'est-ce qu'un contrôle de police, Éric Fassin ?
La question dans un contrôle de police, c'est de savoir si on est en train de contrôler quelque chose ou quelqu'un. En fait, on pourrait imaginer qu'on contrôle quelque chose, par exemple des papiers. Mais lorsqu'on s'aperçoit que les personnes qui sont contrôlées le sont à répétition et souvent par les mêmes policiers, il est clair qu'on n'est pas en train de contrôler les papiers. On sait bien qui est qui. Très souvent, les jeunes qui sont contrôlés, puisque ce sont très souvent des jeunes, comme le rapporte encore l'enquête menée par le défenseur des droits, donc ces jeunes, ils connaissent les policiers qui les contrôlent, de même que les policiers qui les contrôlent les connaissent. Donc on ne contrôle pas des papiers. On contrôle une personne. Et à ce moment-là, on change de sens. Ça n'est pas une vérification, c'est contrôler au sens de diriger, de dominer. Et c'est bien pourquoi les violences ne sont pas accidentelles, ce ne sont pas des bavures. Le contrôle, aujourd'hui, fonctionne comme un rappel à l'ordre. À quel ordre ? Eh bien, un ordre qui est très souvent un ordre racial et qui est aussi un ordre de classe. Il dit qui est censé être contrôlé, quel type de gens, mais il dit aussi qui est en position de contrôler. On sait que pour la sociologie, depuis Max Weber, il y a cette idée que l'État possède le monopole de la violence légitime. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une violence légitime, mais d'une violence légale. Autrement dit, elle n'apparaît pas légitime, puisque elle ne repose pas sur une rationalité, elle repose seulement sur la démonstration de la capacité de dominer, être en position de dominer et donc exercer ce pouvoir de manière discrétionnaire. Je crois que ce qui se passe actuellement est un rappel à l'ordre qui n'est pas un rappel à l'ordre de la loi, mais qui est un rappel à l'ordre de la domination. Cela dit, toi, je peux te contrôler autant que je veux et ça n'aura pas de conséquences. Moi qui te contrôle, je ne risque rien. Pourquoi ? Parce que, par ce contrôle, je te définis comme un dominé et je me définis comme un dominant alors même que je ne suis pas dominant. Parce que les policiers, évidemment, ce ne sont pas des riches, ce ne sont pas des puissants, mais simplement leur pouvoir, leur domination, c'est simplement d'être le bras armé d'une logique qui est une logique politique. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je ne reprends pas à mon compte les discours qui visent les policiers eux-mêmes. Je ne reprends pas à mon compte les analyses qui insistent sur le fait qu'il faudrait purger la police d'éléments indésirables. Je crois que ces éléments indésirables existent, bien sûr, mais ils ne sont pas là par hasard. Ils ne se comportent pas de la manière qu'on sait par hasard. En fait, il y a une logique dont ils sont simplement, en quelque sorte, l'expression, dont ils sont l'illustration, dont ils sont le bras armé. Mais il ne faut pas confondre le bras avec la tête qui décide.
Ceci dit, nous pouvons quand même dire que nous avons, comme certains manifestants le disent, que nous avons un problème avec la police, aujourd'hui avec l'institution police. Elle est couverte, d'une certaine manière, sur l'ensemble des cas de violence policière, et c'est à peu près, selon le collectif La Police Assassine, il y a à peu près 15 morts par an en moyenne, dans les mains de la police, quasiment pas de condamnation de prison ferme. La plupart des policiers continuent d'exercer. On a le sentiment d'une impunité généralisée, d'un encouragement à la violence. Donc on peut dire qu'il y a un problème aujourd'hui avec la police.
Il y a un problème avec la police, mais ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un problème qui serait celui des policiers. Parce qu'on voit bien la logique de nos gouvernants. En général, ils couvrent. De temps en temps, il ne couvre pas. Dans les deux cas, c'est une manière de considérer qu'il y a des bavures, des dérapages, donc des problèmes liés aux individus, et que, en un sens, la politique qui est menée ne serait pas la cause, elle serait au contraire le remède. Je crois qu'il faut changer entièrement de perspective. Les politiques qui sont menées aujourd'hui sont la cause de ce qu'on voit apparaître à travers ce que certains appellent des faits divers, mais qui sont des faits de société et surtout qui sont des faits politiques. Donc, non seulement l'État couvre, mais il provoque une situation et ensuite il considère que c'est pas lui le problème. C'est sur le terrain que ça se passe.
En même temps, on a pu voir, notamment avec l'affaire d'Adama Traoré, que la séparation des pouvoirs n'était plus effective.
Alors, la séparation des pouvoirs n'est jamais une donnée. C'est quelque chose qui ne va jamais de soi et pourquoi il faut se battre. Mais effectivement, ce qu'on voit actuellement, c'est que la police et la justice, au lieu d'être deux branches bien distinctes, finissent dans beaucoup de cas par converger. Et ensuite, on s'aperçoit que l'exécutif, articule en quelque sorte cette convergence entre la police et la justice. C'est ce qui s'est passé au moment de l'affaire Adama Traoré. On a vu un procureur qui systématiquement à déformer le contenu des rapports d'autopsie pour dédouaner les gendarmes et pour incriminer la victime. Qu'est-ce qui vient de se passer à propos de Théo ? Eh bien, on a vu que il y avait des policiers qui commettaient des violences et qu'ensuite l'IGPN, essayait en quelque sorte de minimiser en refusant la qualification de viol et que le parquet reprenait à son compte le point de vue de l'IGPN. Heureusement, il y a une juge qui, pour l'instant, a choisi la qualification de viol. Autrement dit, ça prouve qu'il y a une bataille constante pour savoir si il y a bien séparation des pouvoirs ou non. En l'occurrence, la juge maintient une logique démocratique qui est celle de la séparation des pouvoirs en appliquant la loi. Mais je crois qu'il est important de voir que c'est une bataille et que si on ne fait pas attention, eh bien on s'habituera à ce que la police et la justice disent forcément la même chose.
Justement, sur le fait de s'habituer, sur cette banalisation des violences policières, c'est tout de même le cas depuis l'état d'urgence.
Oui, alors... Ce qui n'est pas nouveau, et les associations qui prennent en charge ces questions de violences policières le disent depuis très longtemps, ce sont les violences qui touchent en particulier ce qu'on appelle les jeunes de banlieue. En même temps, ce qu'on peut constater, c'est que depuis l'état d'urgence, d'une part, ça ne concerne plus seulement les jeunes de banlieue, on le voit en particulier dans tous les contextes politique, et d'autre part, ça devient de plus en plus brutal pour ce qui concerne ces jeunes de banlieue. Mais il y a une convergence entre les deux, c'est-à-dire la violence contre les manifestations et la violence contre les jeunes de banlieue, c'est parce qu'aujourd'hui, les familles des victimes, de plus en plus, s'organisent, se mobilisent, et donc existent pas simplement comme des victimes, mais aussi comme des sujets politiques. Et donc on s'aperçoit que ces familles, ça a été le cas en particulier pour la famille d'Adama Traoré, peuvent être l'objet de répression, non plus seulement en tant que jeunes de banlieue, puisqu'il ne s'agit pas forcément de jeunes, mais de familles, mais en tant que sujets politiques. Donc on a quelque chose qui est un durcissement, mais aussi le croisement entre deux logiques, la répression contre les jeunes d'une part et la répression contre les mobilisations politiques d'autre part.
Black Panther on the beat.
Le 7 juin 2007, Lamine Dieng, mort dans un fourgon de police à Paris. 9 mai 2008, Abdelhakim Hajimi, mort par étouffement à Grasse après avoir été maîtrisé par les policiers lors de son arrestation. 27 septembre 2009, Hakim Djelassi, mort au cours d'un transport dans un fourgon de police. 12 novembre 2009, Mohamed Boukrourou, mort dans un fourgon de police. 21 avril 2012, Amin Bentounsi, mort d'une balle dans le dos. Novembre 2013, Loïc Louise, mort après avoir reçu une décharge de taser. 2 novembre 2014, Rémi Fraisse, mort après avoir reçu une grenade de la gendarmerie. Nuit du 5 au 6 mars 2015, Amadou Koumé, mort dans un commissariat du 10e arrondissement à Paris. 28 avril 2016, Pierre Caillet, mort dans un commissariat de Seine-Saint-Denis. 19 juillet 2016, Adama Traoré, mort à la gendarmerie de Persan à la suite de son interpellation. Etc. Etc.
Thank you.
le racisme joue un rôle très important dans notre société en général, et donc ce qui se passe dans les rapports avec la police est un élément d'un dispositif plus général de racialisation de la société. Donc il ne faut pas isoler la question policière. La question policière, c'est là où ça se voit le plus, parce que c'est le point de contact. Alors que nous vivons dans une société de ségrégation où le contact n'existe pas forcément. Donc la rencontre entre les jeunes, entre guillemets, et la police, elle est importante parce qu'elle visualise, elle rend visible, elle rend manifeste ce qui traverse la société d'une manière presque invisible la plupart du temps. Tout simplement parce que nous ne vivons pas tous dans les mêmes quartiers. Et ça, ça s'appelle de la ségrégation. Mais la ségrégation, c'est une violence raciale qui ne se voit pas, où il n'y a pas de victime immédiate, comme dans le cas d'une rencontre avec la police. Donc je crois qu'il ne faut pas isoler la question policière, il faut la replacer dans un cadre plus général, de même qu'il ne faut pas isoler la responsabilité des policiers, même si elle existe bien entendu, et qu'il faut la replacer dans le cadre plus général de la responsabilité politique. Alors le racisme, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que dans ces contrôles, ce qui est signifié, c'est qu'il y a des gens qu'on a le droit de contrôler comme ça. C'est bien ce que montre l'enquête du défenseur des droits. Le défenseur des droits a mené une enquête auprès de 5000 personnes. Et donc ne s'est pas fondé sur l'observation d'un lieu particulier, comme la gare du Nord, avec l'enquête par Fabien Jobard et d'autres, financée par Open Society. Non, là, on a une enquête aléatoire. Donc, avec ces 5000 enquêtés, on ne pourra plus dire qu'il y a un biais. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre ce que l'on sait déjà, mais ça l'établit de manière ferme, c'est-à-dire qu'il y a un risque de contrôle beaucoup plus élevé lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est homme et lorsqu'on est noir ou arabe. Et que non seulement ce risque de contrôle est plus grand, mais surtout le risque d'être beaucoup contrôlé est beaucoup plus grand. Et que lorsqu'on est contrôlé, le risque que ça se passe mal est encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire au minimum la grossièreté et au pire la violence. Donc il y a confirmation de ce que les jeunes de banlieue savent bien, mais aussi de ce que tout le monde sait bien. La plupart des gens en France ne sont pas mécontents de leur police puisqu'ils n'ont jamais cette expérience. En revanche, certains d'entre nous ont cette expérience tous les jours. Ça crée une vie différente. Nous n'avons pas tous la même vie. Certains d'entre nous ne risquent jamais, ou presque, d'être exposés à une telle violence. D'autres ne savent pas si leurs enfants rentreront le soir normalement. Ça, ça veut dire qu'on n'a plus la même vie. Et si on n'a plus la même vie, eh bien c'est ça qui crée de la race. C'est-à-dire des gens qui finissent par avoir des expériences de vie tellement différentes qu'on finit par croire qu'ils sont de nature différente. Comme ça vient renforcer d'autres formes de discrimination, qui sont celles dans l'accès au logement ou à l'emploi, eh bien on s'aperçoit qu'on est en train de constituer à l'intérieur d'une même nation des populations différentes qui n'attendent pas du tout la même chose de la vie en général, mais en particulier de l'État et singulièrement de la police. Ça, c'est ce qui est produit entre autres par ces contrôles policiers. C'est un élément d'un dispositif plus général qui va faire qu'il y a différentes catégories dans la population et que ces catégories, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et après, on dénonce le communautarisme. En réalité, on produit des communautés qui seraient étrangères les unes aux autres puisqu'elles n'ont pas la même vie.
C'est comme ça qu'on peut parler de racisme structurel ?
Oui. Le racisme, nous avons tendance à continuer de le penser un peu à la manière des années 80 comme une idéologie qui serait portée par un parti politique, en particulier le Front National. C'est vrai, mais ça n'épuise pas du tout la définition du racisme tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut y ajouter les discriminations qui sont systémiques. Parce que effectivement, il y a un racisme structurel qui fait qu'au-delà de l'intention, bonne ou mauvaise, au-delà de l'idéologie, raciste ou non, eh bien, dans des univers comme le journalisme ou dans des univers comme l'université, eh bien, on s'aperçoit que même quand on est antiraciste, on se retrouve souvent dans des univers très blancs. Autrement dit, l'intention, l'idéologie ne suffisent pas à prémunir contre le racisme. Les discriminations systémiques du racisme structurel, c'est quelque chose qui affecte notre société. Mais ce qu'on peut ajouter à cela, c'est qu'il y a aussi, et ça nous en prenons de plus en plus conscience, une logique qui n'est pas seulement celle de la société, mais qui est celle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics contribuent à produire cette racialisation de la société. Longtemps, nous avons pu croire que l'État était un rempart contre le racisme. Aujourd'hui, nous savons que l'État joue un rôle majeur à travers ses politiques en général, qu'il s'agisse des politiques de l'emploi, qu'il s'agisse des politiques du logement ou qu'il s'agisse des politiques policières. L'État contribue à produire le racisme, même si ça n'empêche pas que l'État ne parle pas d'une seule voix. Donc on peut avoir le défenseur des droits qui est une institution de l'État et qui essaie de combattre cette logique. Donc il ne faut pas se représenter que l'État, c'est une personne qui aurait une vision du monde, ce sont des institutions. Néanmoins, on peut constater que nombre de ces institutions, aujourd'hui, contribuent à la racialisation de la société au lieu de la combattre.
Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle Saint-Nègre. Un noir qui plane au-dessus de j'appelle Saint-Nègre. J'ai fait un cauchemar, Martin Luther, un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leeb. Les grosses lèvres, les plus célèbres. Je me sens beau, noir, je m'élève jusqu'au high level.
High level, la foule enlève. La merde, la fout entre Chaka Zulu et Dwell Vierre Slave. Mon art, c'est la sève. Garde yes weekend. Si tu me réjouis à la danse, Kentucky Fried Chicken. Négro, je dérange, mais le nez du sphinx explosé. Comme Huey P. Newton, calibré sur un trône en osier.
J'suis aussi choqué, leur quota brise les quotas de la France profonde. Tricard comme Joker sur Gotham, comme un gros tag sur la Joconde. J'raconte que les Antilles sont pillées par la métropole, que mon Africa est bien trop forte et que
l'Africa est souvent négrophobe.
Forte est ma musique, imagine, offre les codes Illuminati. Ici pas de négro fragile, rouge, jaune, vert, kaki. Le cul posé, j'ai pris votre place, je me prends pour Rosa Parks. Je me prends pour tout ça, l'ouverture, bouton, cul de Bonaparte.
Yeah. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre.
Quelle insolence!
Musique nègre,
gardez Yes Weekend.
On fait de la musique nègre.
Je suis choqué leur quota. Choqué leur quota.
Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre.
Quelle insolence!
Musique nègre,
gardez Yes Weekend.
Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Depuis le bruit et l'odeur, je sens que je dérange la France. Je fais un tour chez Guerlain, je mets du parfum de violence. Quelle arrogance, quelle insolence. Comme Sarkozy à Dakar, je choque l'assistance. Je me sens pas plus européen que la livre sterling. Je fais mon nègre site au sol comme Alton Sterling. A trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé. Je pourrais mourir d'infection comme un Traoré. Des négrophobes comme Alain Soral dans un texto. Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. Les histoires deviennent des...
Les histoires deviennent des légendes. Les légendes deviennent des mythes. Je roule des bâtons dans les jambes. Noir crémite, sale noire, faucheuse.
Je dépasse les limites.
J'emprunte les voies rocheuses.
Je brûle comme le soleil à son zénith.
Accrocheuse, massive, calme majeur levé. Regarde à quoi on me cantonne. Le vrai du faux, je démêle. Sombre attitude comme ces nègres sortis de Compton. Et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes. Mec, si je mens, l'enfer m'attend. Je rallume le feu de la révolte. Je brûle les bouquins de Fernand Nathan. Guerry m'a dit bourse, pas de blasphème, j'ai mille grandes sûretés. Je rappe ma vérité nue, genre Crazy Horse, cogne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé par la street, j'avance entre les croix gammées.
Croix cramées.
À livrer, j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal. D'en bas, c'est nous la France, négro, comme Alexandre Dumas. Puis la primaire, leur crâne encaisse pas
son du tam-tam.
Musique nègre égorge le rossignol, le gueule en prime time. Musique nègre,
pas calibré pour la FM.
On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre,
gardez Yes Weekend.
On fait de la musique nègre.
J'suis revenu choquer leur quota. Choquer leur quota.
Musique nègre,
pas calibré pour la FM.
On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre,
gardez Yes Weekend.
On fait de la musique nègre.
Musique négrière pour un feat,
Là c'est Kerry James qui m'invite. Secteur A tout simplement noir, ménage à trois et mafia qu'un fri. Je serai dernier s'il n'en reste qu'un. J'ai croisé des regards mesquins, controversés dans mes vers. C'est comme un concert de Black M à Verdun. Puisqu'on nous critique dans nos combats, ma négritude dans le coma. Votre presse a bien fait semblant quand Laurent Blanc parlait de quota. Nabanga Kali sous-souté, Nana Banaka boutouté, Nana Banaka kakandambe, Nana Banaka moutouté.
Négla Kai c'est sa moyenne, m'a prêté la yopé. Les musiques nous y'ont pas aimé, couler nous y'ont dénigré.
West Indies, négro radical, Haïti, royaume d'Africa. Qui va défendre tous nos écrits, c'est ni le grand ni même la licra. Prime.
Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre.
Gardez Yes Weekend.
On fait de la musique
J'suis
nègre.
J'suis revenu choquer leur quota. J'suis revenu choquer leur quota.
Musique nègre.
Pas calibré pour la FM.
On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre.
Gardez Yes Weekend.
On fait de la musique nègre.
J'aimerais qu'on s'arrête sur cette, sur le, la dimension sexuelle de cette agression, parce que il y a plusieurs faits. Il y a d'abord eu la requalification, d'abord une tentative de requalification en violence volontaire, puis ensuite une personne, en fait, un policier, est aujourd'hui accusé de viol, mais les trois autres policiers en violence volontaire, alors que normalement...
Ce serait un viol en réunion.
Donc déjà, on voit ces effets de requalification, et ensuite, effectivement, il y a cette notion de viol par accident, et j'aimerais qu'on comprenne ce que ça engage, en fait, cette requalification de viol pour l'ensemble des luttes contre les violences sexuelles.
C'est dans ce sens que nous sommes intervenus avec cette tribune, parce que au-delà de l'analyse du cas particulier de Théo, et au-delà de la question des violences racistes et policières dans les banlieues, il nous a semblé qu'il était important de faire entendre un point de vue qui était celui des spécialistes qui travaillent sur ces questions de violence de genre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le code pénal, depuis la loi de 1980, est très clair, puisque toute pénétration, quelle qu'elle soit, et donc pas simplement vaginale, mais aussi anale, eh bien, c'est un viol dès lors que ça peut être par surprise, par menace, par violence, etc. Après, on voit bien que dans cette définition de la loi et dans cette définition du code pénal, la question de l'intention n'est pas posée. Alors bien sûr, le code pénal pose la question de l'intention plus généralement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut commettre un crime ou un délit sans le savoir ou sans le vouloir, etc. Donc cette question, elle peut être posée. Mais on voit bien que pour le viol, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va se placer du point de vue de la victime ou est-ce qu'on va se placer du point de vue de l'auteur du crime. Et si effectivement... on va chercher, est-ce que vous le vouliez vraiment, est-ce que vous le désiriez, est-ce que, etc. On est en train d'effacer complètement la parole de la victime, qui n'est pas simplement une question de croire ce qu'a dit la victime, puisque là, il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé, sur les faits objectifs, il n'y a pas de doute. Mais c'est simplement, est-ce qu'on va s'intéresser surtout à l'intention ou au résultat ? Et je crois que c'est un enjeu où la question sexuelle rejoint la question raciale. Au fond, on a des tas de gens pas racistes du tout, qui ont des actions qui sont objectivement racistes. La question, c'est est-ce qu'on se place du point de vue de celui qui commet une violence ou du point de vue de celui qui l'a subi. Et encore une fois, je crois que la bataille autour du viol de Théo est très importante parce que ce serait un recul, non seulement bien sûr, pour Théo et pour tous les jeunes de banlieue, qui, au fond, devraient faire la preuve de l'intentionnalité des agressions qu'ils subissent. Alors même qu'on sait qu'ils ont déjà beaucoup de mal à faire établir quelque chose, puisque les policiers, très souvent, se plaignent et portent plainte pour outrage, pour anticiper sur les accusations de violence. Donc c'est déjà très difficile pour eux, mais ça deviendrait très difficile pour les femmes aussi en général, parce que si la justice commençait à reconnaître l'intention comme le critère premier en matière de viol, eh bien ça voudrait dire que demain, il serait très difficile pour des femmes de prouver l'intentionnalité du violeur. puisque les violeurs pourraient toujours dire « oui, mais je pensais qu'elle était consentante ».
Jérémy Calfon, qui était élève avocat, rappelle qu'il y a là un enjeu de jurisprudence, puisqu'il faudra, en tout cas à l'avocat de Théo et à Théo, de prouver le caractère sexuel de l'acte.
Alors, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, moi, je suis sensible au fait qu'une loi a été votée. La jurisprudence, ensuite, eh bien, c'est les juges. C'est-à-dire qu'on va compter sur le fait que les juges sont plus ou moins ouverts, plus ou moins progressistes, etc. Il se trouve que là, nous avons une juge qui a refusé de se laisser imposer la déqualification du viol en violence volontaire. Donc, nous avons une juge qui, à mon sens, fait son métier. Mais les juges, dans certains cas, par exemple lorsqu'ils décidaient pendant des années que la pénétration anale n'était pas un viol ou n'était pas forcément un viol, eh bien ça veut dire qu'à mon sens, ils ne respectaient pas la lettre de la loi qui dit quelle que soit cette pénétration. Donc la jurisprudence, c'est une bataille qui se joue sur le terrain, un peu comme c'est en train de se jouer aujourd'hui autour de l'interprétation de ce qui est arrivé à Théo. Donc je crois qu'il est important de revenir à la loi pour bien voir sa logique, la logique de la loi, c'est de faire entendre le point de vue, non pas des gens qui sont les agresseurs, mais des gens qui sont les victimes. Et s'il faut choisir un point de vue, ça n'est pas simplement celui de gens qui vont toujours établir qu'ils ne sont pas sexistes, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas violents, etc., mais de ceux qui disent « j'ai subi une violence ». Je crois donc que pour les femmes en général, et bien sûr pour toutes celles et tous ceux qui sont exposés à des violences sexuelles, puisque ça peut concerner aussi des hommes, il est très important de ne pas se placer du point de vue de l'agresseur, il est très important de se placer du point de vue de la plaignante. Non pas en croyant tout ce que disent les personnes, mais en prenant en compte le fait que le consentement, eh bien, ça suppose de s'intéresser à la personne qui est la victime.
Et si on se place du point de vue des victimes de violences policières, si on se place du point de vue des habitants des banlieues, on comprend la révolte aujourd'hui.
D'autant plus qu'on constate que les pouvoirs publics se placent rarement de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on est indifférent au fait qu'une partie de la population est visée par ces violences? Quelle est la victime de violences d'État? Notre indifférence collective, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que, oui, bien sûr, l'État est là pour protéger les gens, l'État est là pour protéger la population, est là pour protéger les citoyens, mais donc, si là, la question c'est surtout de protéger la police, ça veut dire qu'on considère que ces gens qui sont des victimes de violences policières, ce ne sont pas tout à fait des citoyens. C'est ça que signifie aujourd'hui l'aveuglement délibéré des pouvoirs publics face aux violences policières. Ils disent à tout le monde « oui, mais ces gens-là ne sont pas tout à fait nos concitoyens parce que sinon il faudrait les protéger. Puisque nous ne les protégeons pas, puisque nous préférons protéger la police contre les citoyens, c'est que ce ne sont pas vraiment des citoyens. »
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Éric Fassin, d'avoir accepté cette discussion. Merci beaucoup.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence, les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes, les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés, ce sont les mecs de cité. idées qui te traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats, jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens, je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction, parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention, faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payez pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Je suis en Inde, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis Lettre à la République.